terror state.
Non, nous ne sommes pas des terroristes, c'est Divergence Numérique, mes bons amis, le rendez-vous hebdomadaire d'informations sur les logiciels libres depuis 2003. Pas hebdo depuis 2003, certes, mais présent sur la bande FM Montpellier-Rennes et sur la toile mondiale depuis cette année fatidique où nous rencontrions Linux et consorts. Gilles Gougeot au micro, c'est Eliel Caïm qui manipule les moutons et c'est Pascal Rullier qui nous accompagne. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Gilles, Anaël, si tu nous écoutes, on pense à toi.
C'est vrai qu'Anaël nous fait faux bond ce soir car il a trop de travail, ce jeune cadre dynamique.
Il est pris par des machines à dompter. Alors.
Nous ne ferons pas une digression sur les sextoys USB, mais écoute, si tu nous entends Anaël, fais gaffe à toi quand même. Plein de nouvelles du libre dans cette édition. Comme d'habitude, nous avons failli avoir une interview de la chargée de com de Mandriva. Mais,
chargée de communication, il y a chargée.
Voilà. Elle est bonne. Alors, non pas qu'elle avait l'haleine chargée, mais un emploi du temps très chargé.
Oui.
Et on le comprend avec les rumeurs sur le rachat de Mandriva qui courent depuis une bonne quinzaine de jours,
mais
qui ne sont pas que des rumeurs.
Nous ne désespérons pas, sans doute la semaine prochaine, en interview.
Par téléphone. Et puis de la musique libre, évidemment, comme chaque fois dans cette divergence numérique.
Alors, la dernière fois, on avait découvert un album. Cette fois-ci également, on va faire la même chose. Dernier album de Andrea Dacal, mon petit coup de cœur, avec son dernier album Affirmativa, chez le label Fresh Pulp.
C'est une femme, donc.
Oui, brésilienne.
Une femme avec une pochette bleue et noire, et un t-shirt blanc et des lunettes de soleil. Et elle est de profil sur la pochette de son album, qu'on peut retrouver c'est chez Dogmazic ou Fresh Pulp.
Exactement, c'était l'album numéro 45.
Eh bien, avant de partir dans de plus amples...
Sans oublier nos amis québécois qui nous font le privilège... La voix du libre. Donc, l'Ubuntu Parté, puisqu'ils disent Parté.
Une Parté, on va faire une Parté. Hein.
Et donc, ils nous feront part de leurs témoignages recueillis sur place auprès des utilisateurs de cette nouvelle version, peut-être 10.04.
La Poutine version 10.06, c'est pour bientôt et on aura des nouvelles fraîches avec notre collègue Tania Beaumont qui nous rejoindra sur les ondes de Divergent dans quelques petits moments, mais ça ne concerne pas du tout le sujet qui nous occupe ce soir et qui démarre avec cet inénarrable générique des nouvelles du front, dont je précise que les bruits d'animaux que vous entendez sont vraiment, vraiment des pingouins que je suis allé moi-même enregistrer au pôle Nord.
Les nouvelles du front.
Les nouvelles du front avec un cinéaste, et non des moindres, qui se pique de donner son point de vue sur la propriété intellectuelle. Il s'agit de Jean-Luc Godard. Je cite « Je suis contre Adopi », ça c'est bien, « il n'y a pas de propriété intellectuelle », ça c'est mieux. Interrogé par les Inrock à l'occasion de la sortie de son film « Socialisme », Jean-Luc Godard a livré un plaidoyer contre les dérives du droit d'auteur et l'idée même de propriété intellectuelle. Alors qu'il entrera bientôt dans sa 80e année et malgré une image de réalisateur vieillot dont on aime raconter les films sans jamais les regarder, Jean-Luc Godard est resté un cinéaste d'une grande modernité. À l'occasion de son dernier film « Socialisme », présenté au Festival de Cannes et déjà disponible en VOD, Godard envoie dinguer la propriété intellectuelle en empruntant des extraits de films qui collent à ses images sans l'autorisation de ses confrères. Dans une longue et passionnante interview aux Inrock, Jean-Luc Godard dit tout le mal qu'il pense du droit d'auteur tel qu'il s'est appliqué aujourd'hui. Le droit d'auteur, je cite, « vraiment, c'est pas possible. Un auteur n'a aucun droit. Je n'ai aucun droit. Je n'ai que des devoirs », explique-t-il. « Je suis contre Adopi, bien sûr. Il n'y a pas de propriété intellectuelle. Je suis contre l'héritage, par exemple. Que les enfants d'un artiste puissent bénéficier des droits de l'œuvre de leurs parents, pourquoi pas, jusqu'à leur majorité. Mais après, je trouve pas ça évident que les enfants de Ravel touchent des droits sur le Boléro. Le Boléro de Ravel qui, rappelons-le, avait, avant de tomber dans le domaine public, fait couler beaucoup d'encre quand il avait été repris par Frank Zappa, évidemment. J'allais pas rater cette occasion.
C'est très, très compliqué, d'ailleurs, les droits de Maurice Ravel là-dessus. Allez sur Wikipédia, tapez Maurice Ravel, vous verrez que suivant les pays, les droits ne sont pas les mêmes et que c'est le gros, plus gros, il faut savoir, plus gros revenu de la SACEM en termes de droits.
En plus du privilège façon ancien régime que sont les droits d'auteur post-mortem, forcément incompatibles avec ses idées politiques, Godard trouve sans doute très désagréable l'idée que ses films réalisés pour éveiller la conscience ne seront pas disponibles dans le domaine public avant au moins les 70 années qui suivront sa mort. C'est la loi. Le débat existait déjà, beaucoup plus virulent, il y a 2 siècles. Plus que le droit d'auteur, c'est l'abus du droit d'auteur qui le dérange. L'appropriation exclusive de l'œuvre, je cite, il ne devrait pas y avoir de propriété des œuvres. Beaumarchais, qui a défendu le droit d'auteur et créé la SACD, note de la rédaction, voulait seulement bénéficier d'une partie des recettes du mariage de Figaro. Il pouvait dire « Figaro, c'est moi qui l'ai écrit », mais je ne crois pas qu'il aurait dit « Figaro, c'est à moi ». Ce sentiment de propriété des œuvres est venu plus tard. Aujourd'hui, un type pose des éclairages sur la Tour Eiffel, il a été payé pour ça, mais si on filme la Tour Eiffel, on doit encore lui payer quelque chose. Il estime que les artistes ont le droit de prendre les images de ces films sans le demander. D'ailleurs, des gens le font. Mettre ça sur Internet et en général, c'est pas très bon. Mais je n'ai pas le sentiment qu'ils me prennent quelque chose. Godard lui-même a repris dans son film des images de plage d'Agnès Varda sans lui demander l'autorisation et même sans la citer. Une pratique totalement interdite par le code de la propriété intellectuelle, mais qu'il juge légitime. Je cite, ce plan n'est pas une citation, je ne cite pas le film d'Agnès Varda, je bénéficie de son travail, c'est un extrait que je prends, que j'incorpore ailleurs pour qu'il prenne un autre sens. Il est d'accord pour le payer, mais pas au prix exigé par le producteur. Si Agnès me demandait de l'argent, j'estime qu'on pourrait la payer au juste prix, c'est-à-dire en rapport avec l'économie du film, le nombre de spectateurs qu'il touche. Quand la loi n'est pas juste, la justice passe avant la loi, dit l'avant-dernière citation du film, c'est par rapport aux droits d'auteur. Tous les DVD commencent par un carton, du FBI criminalise la copie. Je suis allé chercher Pascal, explique Godard, c'est d'ailleurs sur cette image du FBI qui prend le consommateur pour un coupable en puissance qu'est dite la citation. Ce qui est illégal est-il nécessairement illégitime ? Eh bien, vous avez 2 heures. Un article qu'on retrouve sous la plume de l'excellent Guillaume Champeau de numerama.com.
Merci Guillaume, merci Numerama. Une petite pause musicale pour découvrir cette artiste brésilienne, Andrea Dacal, qui est donc, après une première connexion brésilienne l'année dernière avec Dubalizer, Fresh Pulp traverse une nouvelle fois l'Atlantique. Fresh Pulp qui est un net label orléanais, cette fois-ci en direction de Rio de Janeiro, plus précisément à Niterói, avec Andrea Dacal, brésilienne de 30 ans, chanteuse, instrumentiste, poétesse et aficionada de skateboard. C'est une balade entre reggae, dub, rap et musique brésilienne. Chaos Roots Control, son premier album qui était sorti en 2007, est rempli d'énergie positive, d'espoir, d'engagement, de partage et de matière subtile, offrant une nouvelle perception poétique. Tout ça, c'est sur fresh-pulp.net, la release numéro 45. Et on va écouter un morceau de son album qui s'appelle Relaxa. Et comme c'est chez Fresh Pulp, tout est en Creative Commons by SA,
c'est quoi ? Mais c'est le morceau
NC, voilà. Citons-les, ils sont.
Relaxa na estrada, aprende que o que vem passa, paisagens remotas, horas passadas, conspiradas, hora de órbita. Imposta e postas, apostas, escrevemos histórias sobre nobres, insolentes memórias. Juntamos os elos, relembramos momentos de glória. Pra se sentir inteiro, pra se sentir.
Vous êtes toujours sur Divergence FM 93.9 et c'est Andrea Dacal qui nous interprétait Relacha, puisque le X se prononce tch en brésilien. Une brésilienne de 30 ans, que rêver de mieux. Une brésilienne de 30 ans, franchement, ça tue. Surtout quand elle fait de la musique. Et on aura l'occasion, eh bien, tout au cours de cette divergence numérique, d'écouter d'autres extraits de son album, puisque cette semaine encore, c'est un album qui nous sert de fil rouge musical durant cette divergence numérique, dans laquelle on poursuit les nouvelles du front avec, par rapport aux données privées, eh bien, les excuses de Google ne suffiront pas, ma bonne dame. Ça ne suffira pas, comme le dit Guillaume Champeau, lu ici par notre ami Pascal Relier.
Un petit bonjour aussi à nos auditeurs hors de Montpellier qui nous écoutent sur le net, notamment des Belges, des Québécois, je le sais. Petit coucou à Robert F.
Et une Néo-Zélandaise qui répond au doux prénom de Marushka.
Ah, possible. Donc, concernant les données privées, les excuses de Google donc, ne suffiront pas. Il faudra plus que des excuses pour que Google sorte indemne de la collecte illégale des données qu'il a interceptées pendant 3 mois dans les rues de 30 pays sur les réseaux Wi-Fi ouverts.
3 ans.
Trois ans. Donc, sur des réseaux Wi-Fi ouverts, la firme de Mountain View, qui était déjà dans le collimateur des gendarmes de la vie privée, devrait faire l'objet d'une enquête à la fois en Europe et aux États-Unis. Le Financial Times indique dans un article daté de lundi que la Commission fédérale du commerce, FTC, devrait décider d'ouvrir une enquête formelle sur l'enregistrement des données envoyées sur les réseaux publics. Des défenseurs de la vie privée ont dit qu'une enquête pourrait regarder si la collecte des données a violé les règles sur l'accès non autorisé aux ordinateurs et aux communications privées, indique le journal. Certains y voient même un conflit diplomatique en puissance. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si une société allemande envoyait des voitures à travers les rues de Washington pour pomper toutes ces informations ? Demande ainsi Mark Rothenberg, directeur de l'Electronic Privacy Information Center, EPIC. En Europe, c'est l'Allemagne qui prend la tête de la rébellion contre Google, qui parle d'une « erreur » entre guillemets pour justifier sa faute. Ilse Heiner, la ministre allemande en charge de la protection des consommateurs, a demandé samedi qu'un compte-rendu complet des informations prélevées par Google lui soit livré. Elle a jugé que la collecte était alarmante et une démonstration supplémentaire de ce que les lois de protection de la vie privée sont un concept étranger à Google, dit-elle. L'affaire devrait être à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du G29, le groupe européen des autorités de protection où siège notamment la CNIL chez nous en France. Peter Schaar, le commissaire fédéral à la protection des données en Allemagne, qui avait déjà dénoncé la collecte des adresses MAC, donc les adresses physiques de votre carte réseau par exemple et des noms de réseau Wi-Fi par leur SSID, c'est-à-dire le nom du réseau, était extrêmement remonté ce week-end contre Google. Il ne croit pas une minute les explications de la firme de Mountain View, donc aux États-Unis, et il est difficile de ne pas dire qu'il a raison d'avoir raison des doutes au minimum. Donc tout ça, ce n'était qu'une simple erreur, s'est-il étranglé sur le blog de la CNIL allemande. Les données étaient collectées et stockées contre la volonté des directeurs du projet et d'autres directeurs chez Google. Si nous suivons cette logique, ça veut dire que le logiciel a été installé et utilisé sans avoir d'abord été testé proprement. Que des millions d'octets de données ont été collectés par erreur sans que quiconque chez Google le remarque, y compris les propres directeurs de protection des données de Google, qu'il y a 2 semaines encore défendaient devant nous les pratiques internes de protection des données chez Google, dit-il. Il est vrai qu'il est étrange, pour ne pas dire plus, que personne n'a trouvé bizarre chez Google d'avoir collecté pendant 3 ans plus de 600 gigas de données sur les réseaux Wi-Fi et en ne recueillant en principe que les adresses MAC et les noms de réseau, donc les SSID. Google a en tout cas commencé à procéder à la suppression des données qu'il avait collectées. Il a publié une lettre d'un cabinet indépendant qui certifie avoir assisté à la destruction physique des 4 disques durs. Oui, 4 disques durs, où étaient contenues les données collectées en Irlande. Une copie chiffrée a été réalisée pour les besoins de l'enquête, nous dit encore l'excellent Guillaume Champeau de Numérama.com.
Et c'est là qu'on se pose quand même la question. Il faut se foutre de notre gueule parce que, ouais, on a 600 gigas de données, on vous assure qu'on les a détruits. Je veux dire, moi, je peux supprimer 4 disques durs de notre serveur de stockage et dire aux gens, voilà, ça n'existe plus. Je veux dire, une copie de 600 gigas, ça se fait en moins de 5 minutes.
Il y a aussi le fondement de la chose, c'est-à-dire qu'ils se sont baladés dans les rues, ils ne sont pas encore rentrés chez les personnes.
Ça va venir, il y a des pastiches vidéo qui tournent sur Internet sur
justement, c'est la réponse allemande.
Home View.
Exactement, donc ils se sont baladés dans la rue, ils ont capté des réseaux Wi-Fi, bien sûr. En plus, ils étaient ouverts, même pas protégés. Donc, tout le monde peut s'y connecter. Le voisin, Google, quelqu'un assis sur une chaise dans la rue. D'ailleurs, des New-Yorkais le font, ça. Ce qui a été capturé, c'est des choses qui ont été mises à disposition par les personnes en question.
Mais les personnes en question qui le mettent à disposition ne le font pas intentionnellement, c'est par ignorance. On s'arrête au bon fonctionnement de l'appareil, on ne se préoccupe pas de savoir si le réseau est visible, etc.
Alors normalement, il y a une doc qui est livrée avec l'appareil qui dit que si tu as lu la doc...
Nul n'est censé ignorer la loi, sauf que personne ne connaît le code civil par cœur, même pas les avocats. Donc,
Ce petit mot qui fait toute la différence.
Voilà, ce petit mot qui fait la différence et qui fait quand même une grosse affaire parce que finalement, l'adresse MAC de votre machine, c'est quand même la vôtre. A priori, on n'a pas spécialement envie qu'elle soit récupérée ou etc. Enfin bon, c'est
Oui, mais après, on va faire quoi avec une adresse MAC ?
Moi, ce qui me pose question, ce qui fait vraiment rigoler, c'est cette histoire de dire Google a commencé à procéder à la suppression des données qu'il avait collectées.
Oui,
il a publié la lettre d'un cabinet indépendant qui certifie avoir assisté à la destruction physique de 4 disques durs.
Des
4 disques durs, un article défini.
S'il
n'y en a que 4. Enfin bon, voilà, on peut passer au rouleau compresseur autant de disques durs qu'on veut. Le cabinet indépendant n'est pas allé voir ce qu'il y avait dans les disques durs. Puisque de toute façon, c'est très bizarre, quoi, très bizarre.
Donc, si vous ne voulez pas être sur Google, vous les contactez et vous dites « je ne veux pas être chez vous ».
Et puis, on refait peut-être avant la prochaine pause musicale un petit retour avec l'histoire de The Pirate Bay.
Ah oui.
Déjà de retour, The Pirate Bay ne peut pas être fermé, mort de rire. Encore une victoire à la Pyrrhus pour les ayants droit, alors qu'elle a obtenu du tribunal de Hambourg qui leur donne la suspension de la fourniture de bande passante au serveur de The Pirate Bay, l'association américaine des studios de cinéma, la MPAA, ne peut que constater ce matin le retour en ligne du site de lien BitTorrent. La suspension n'aura pas tenu 24 heures. C'est déjà la troisième fois que les majors du cinéma tentent de faire tomber The Pirate Bay en s'attaquant à ses hébergeurs avec un succès très éphémère. Le site avait dû déménager en urgence vers l'Ukraine après les poursuites engagées contre son fournisseur d'accès suédois, puis il avait dû migrer vers un abri anti-atomique de l'OTAN aux Pays-Bas. Sa nouvelle destination n'est pas connue, c'est peut-être la cave de votre grand-mère, mais depuis ses mésaventures suédoises, le site prévoit toujours un plan de secours pour basculer rapidement vers un nouvel hébergeur dans le cas où leur accès au net serait suspendu. Fidèle à sa tradition, The Pirate Bay se moque donc ouvertement de la MPAA, cette fois dans un billet écrit en capital et dans un langage SMS bourré de fautes dignes d'adolescents prépubères. Mise à jour, Nemesa nous signale en commentaire qu'il s'agit en fait d'un langage emprunté aux lolcats, manière de montrer au lobby du cinéma et aux millions de dollars investis dans la lutte anti-piratage que des gosses seront toujours plus intelligents qu'eux, même quand ils n'en auront pas l'air. Limpide, le message signé d'un certain docteur Lolcat est intitulé « S'il vous s'il vous plaît, apprenez ceci, TPB, The Pirate Bay, ne peut pas être fermé. Notre hébergeur, qui est vraiment très sympa, a été menacé d'une amende vraiment très grosse, donc nous avons décidé de déménager le site pour qu'il n'ait pas de problème, lol. Donc la décision de déménager a été prise par nous, Dixit, The Pirate Bay. The Pirate Bay est un navire insubmersible, il naviguera sur les eaux des interwebs aussi longtemps qu'il le souhaitera. Souvenez-vous-en. Ok, merci. Le message se termine par cette signature TPB, présent depuis 2003 seulement pour les LOL. De quoi mettre une bonne ambiance avant le procès en appel prévu vers la fin de l'année. Numerama.com, Guillaume Champeau, encore une fois.
C'est pas la première fois que The Pirate Bay déménage. Hein. Et puis, ils déménageront encore et encore. Il faut savoir donc que, comme tu disais dans cet article, en 24 heures, ça y est, tout est remonté ailleurs. Et voilà, beau pied de nez.
Et puis une news qui est très métier, on va dire, et un métier qui nous touche particulièrement, et un projet porté par des gens qui nous touchent aussi particulièrement.
Que l'on connaît, oui.
Voilà, les excellents Trifon, Alban Peignet, pour ne pas le citer, ou pour le citer, justement, qui s'occupe, entre autres choses, aussi de l'association Autre Monde, qui, depuis l'année dernière, nous a rejointes sur les rencontres mondiales des logiciels libres.
Et qui nous rejoindra aussi.
Et maintenant, c'est plutôt nous qui le rejoignons, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Et la radio éphémère et événementielle, c'est vraiment leur spécialité. On ne saurait trop louer leur professionnalisme.
Et donc, ils lancent la Streambox. La Streambox par donc Trifon, une jeune société, donc Trifon, spécialisée dans les solutions libres à destination des radios. Donc, lance sa Streambox Trifon, un boîtier prêt à l'emploi, bourré de logiciels libres et qui permet de créer donc les streamings d'une radio en quelques clics. C'est donc ce qu'on appellerait une appliance, un serveur complètement dédié. Et donc pour que vos auditeurs vous retrouvent en direct sur Internet, encore faut-il assurer en continu la compression, l'envoi de votre antenne. Une opération simple, à première vue, qui se révèle trop souvent le point faible de la chaîne de diffusion sur Internet. Un problème matériel, et c'est d'autant d'heures d'absence sur Internet. Un problème logiciel, et c'est d'autant d'auditeurs perdus en pleine émission. Donc voilà, une solution simple, économique, robuste, branchée en quelques minutes, paramétrage simple, consommation électrique réduite, 24 heures sur 24, création de vos flux Internet dans les qualités et formats de votre choix, interface graphique à la pluie.
Tout ça dans un boîtier rackable 19 pouces, une unité, qui propose au niveau du streaming le support des formats Ogg Vorbis MP3 et AAC, des autres qualités d'encodage disponibles, envoie vers les serveurs AXCAS 2 jusqu'à 4 flux à partir du même entrée son. En termes d'entrée son, c'est symétrique, correction du niveau d'entrée paramétrable, tuner FM intégré en option, et puis avec toutes les possibilités d'administrer cette machine à distance, bien évidemment. On leur souhaite de rencontrer un franc succès, puisque c'est un marché, le broadcast, qui est quand même un petit peu trusté depuis pas mal d'années par des sociétés qui peut-être ont fait leur temps.
Oh, il est méchant, le garçon. C'est bien que ça existe. Donc la Streambox, www.trifon.eu. Vous retrouvez tout ça évidemment sur notre site divergence-fm.org, rubrique divergence numérique. Puis je te propose de passer à la news suivante, qui est un peu courte, une petite pause musicale.
Qui est un peu courte, mais qui est vraiment importante, puisque il s'agit de l'excellent Benjamin Maillard, évidemment. Qu'est-ce qu'Internet ? Cycle de conférences à Sciences Po par Benjamin Maillard, des vidéos de ses conférences données par l'excellent patron de FDN, French Data Network, le plus vieux fournisseur d'accès associatif et pratiquement le seul en France. Sur le thème « Qu'est-ce qu'Internet ?» sont disponibles. Vous pouvez dès à présent les visualiser, les télécharger librement et les diffuser. Il est important que la diffusion soit la plus importante, considérant la portée pédagogique de ce cycle de conférences. Il est également important de regarder les parties dans l'ordre afin de bien comprendre. Dans le même style, les vidéos de passage en scène sont en train d'arriver. On retrouve tout ça sur www.libertenumérique.net.
Parce que c'est vrai, les opérateurs actuels, en tout cas ce qu'on appelle les gros, redéfinissent l'Internet, et FDN a vraiment, j'allais dire, le sens initial, originel de ce qu'est Internet.
Voilà, rappelons, citation, l'image que Benjamin Maillard donne souvent, c'est de dire que Internet, c'est des contenus qui sont atomisés sur des millions de machines. Et que,
quand un ordinateur est branché, Internet s'agrandit. Voilà.
Voilà, exactement. Alors qu'aujourd'hui, on assiste, on va dire, au rapt d'Internet par des opérateurs, souvent les réseaux sociaux, qui sont les premiers à profiter de l'ignorance de leurs concitoyens pour leur vendre des soi-disant solutions prêtes à être mises en ligne, enfin déjà en ligne, etc. Mais on peut faire mieux. D'ailleurs, on peut citer Diaspora, qui est un projet de réseau social libre qui est porté par 4 étudiants qui ont fait une levée de fonds qui était prévue pour... Ils voulaient lever $5,000 en un mois. Ils ont vraiment un concept pour faire la nique à tous les Facebook et autres réseaux sociaux, où c'est basé sur le P2P, dans le peer-to-peer. Donc on est vraiment maître de son pod, ils définissent ça comme un pod, ça s'appelle Diaspora. Ils ont réussi en 15 jours à lever $125,000. Donc ça veut bien dire que, et je pense que parmi les donateurs, il y a beaucoup de gens qui utilisent abondamment ces réseaux sociaux, mais qui aussi en ont fait le tour, parce que c'est vrai qu'on est harcelé de pubs, principalement quand on y poste des contenus, et que ces réseaux sociaux se font régulièrement épingler par les juridictions nationales pour... Parce que souvent, ils disent les contenus qui sont posés chez nous nous appartiennent, genre. Ça a été cassé en Europe et au Québec l'année dernière par rapport à Facebook ou d'autres. Donc,
c'est purement une façade pour du profiling.
Absolument.
Et voilà. Du profiling. Ouais. Et vous êtes les cobayes. Merci bien.
Voilà. Et en plus, vous faites ça bénévolement. Et en plus, vous leur faites gagner plein d'argent avec la pub qu'ils font sur leurs portails sociaux.
Et oui, tout juste s'ils ne revendent pas les données. Mais je n'ai rien dit.
Et tu n'as rien dit et nous n'avons rien entendu. Cette émission n'a pas eu lieu.
Non, elle n'a pas eu lieu. On va faire une petite pause musicale avant de retrouver nos confrères québécois avec toujours Andrea Dacal, cette Brésilienne de 30 ans, avec le morceau « Atrito ». Je ne sais pas si je prononce à la portugaise.
C'est parfait. Attends,
c'est pas grave. Extrait de son dernier album Affirmativa. C'est sous Fresh Pulp, fresh-pulp.net. C'est en licence Creative Commons by NCSA. Voilà, je ne fais pas d'erreur sur les licences. Partagez-la, copiez-la, la musique, quelle soit la vôtre.
Da sociedade, hipocrisia e a ironia. Escrevo poesia pra aguentar o atrito. Dispenso o doce veneno. Fico com o amargor do antídoto. Paz que apazigo o conflito. Calo os ruídos, concentro. E a batida faz sentido. Te digo, a segurança é um jogo de azar. Confiança em si próprio, ninguém melhor pra confiar. Ouço que a música nos deixou uma missão. A chave pra chegar em si em outra dimensão. As luzes da cidade confundem a visão. Vamos ser felizes. Obesidade, vício. Se isso é desenvolvimento, vou flutuar no precipício e navegando no abismo. Reflito, força que evolui no atrito. Encontro um caminho e convoco os amigos. Sou força que evolui no atrito. Encontro um caminho e convoco os amigos.
É até tentar parar o barulho, mas sem sucesso. Seguimos a bandeira se o assunto for progresso. Não regresso, mas se for voltar ao passado. Lembre-se, quem já teve no cargo também foi enxutado. O som bateu pesado do interior a Pirituba. Tacal de RJ só confirma nossa luta. Internet, clique, hit, o som, o veículo. Legítimo, confundo, falso como cofre antigo. Erros são normais, nem sempre estou certo. Se erro, eu conserto, prazer tio, ao inverso. Se algo de bom você quer conquistar, pense com equilíbrio positivo da mente, tem que se alcançar. Pare e pense, hoje o rap se renova. O lado negro da força estoura e não é moda. Conexão no cat te apavora nesse beat. Junto com o inverso,
sou
ainda tá o Danny Kate
City. Força que evolui no atrito.
Andrea Dacal sur le 93.9 de Divergence FM dans cette Divergence numérique. C'est de la musique en libre diffusion que vous pourrez retrouver sur dogmazic.net, D-O-G-M-A-Z-I-C ou fresh-poulpe.net. Et puis bah, cette brésilienne trentenaire a sorti cet album avec pas mal de collaborations, comme on l'a entendu, avec bah, pas moins de 8 producteurs sur cet album intitulé Affirmative, avec bah, notamment Low Cut de Dub Zoic et Bandoulou Dub. Et puis 3 MC, on en entendait un sur ce titre. Nous partons à présent pour le, non pas pour le pays du soleil levant, mais pour le pays de la poutine abondante.
Et oui, la poutine et la bonne broue, évidemment, à l'occasion donc, de la sortie mondiale d'Ubuntu qui s'est déroulée donc, le 29 avril 2010. Une party à Québec a eu lieu donc le 6 mai 2010. La Voix du Libre, qui est en fait une émission sur les ondes de CKIA 88.3 FM à Québec, a réalisé quelques entrevues et sondé ainsi les utilisateurs ou futurs utilisateurs de cette distribution populaire sous Linux. Donc on vous en diffuse les meilleurs passages qui ont été récoltés pendant cette soirée. Et puis on va écouter sans plus attendre Edith et Jean.
Donc à l'occasion de la sortie de Ubuntu 10.04, on est toujours au café Tutadimut. Donc je fais un petit peu le tour de la propriété et là je suis tombé sur deux personnes qui ont un lien de parenté, le fils et la mère. Et puis il se trouve que tous les deux utilisent Linux et Ubuntu. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de La Voix du Libre?
Okay. Moi je m'appelle Edith et j'utilise Ubuntu depuis quand même un certain nombre d'années. Actuellement je suis à la retraite.
Pour ma part, je suis sur Linux depuis au moins 5-6 ans. Mon nom est Jean. Et Ubuntu en tant que tel, c'est au moins depuis les 3-4 dernières années que j'utilise ça.
Comment vous êtes retrouvé à utiliser Ubuntu? Est-ce que vous aviez un ras-le-bol de Windows? Est-ce que c'est votre fils qui vous a fait découvrir Ubuntu ou Linux en tout cas?
C'est la curiosité. À l'époque où il étudiait à l'Université de Sherbrooke, il y avait déjà un groupe qui faisait du Linux. Et il m'en avait parlé, ou en tout cas, on avait regardé ça et j'étais curieuse. Donc, je lui ai demandé de m'apporter là, les CD, des choses du genre. Et par la suite, bon, on a continué. Et c'était aussi le fait que c'était un logiciel libre. Donc, pour moi, c'était une bonne chose là, de ne pas être pris sous la domination de Windows.
Est-ce que c'était facile de faire passer maman sous Linux?
Vous voulez la réponse politique ou la vraie réponse?
La vraie réponse.
Non. Non, c'est pas nécessairement facile. En fait, ça l'a pas été. Je suis certain qu'on ferait la même expérience aujourd'hui, puis la chose serait bien différente. Si je regarde il y a 6 ans, qu'est-ce qui se faisait de mieux au niveau Linux? Ça manquait encore beaucoup de convivialité par rapport à la solution d'aujourd'hui. Donc, on se le cachera pas. On a travaillé avec la ligne de commande. On n'a pas eu le choix de le faire. Puis c'est de dépanner au téléphone sa mère en lui expliquant comment utiliser la ligne de commande pour faire telle ou telle chose. Donc, on se le cachera pas. Non, ça n'a pas toujours été facile. Si c'était à refaire aujourd'hui, remarquez, j'hésiterai pas une seule seconde, parce que je pense que on a eu beaucoup de plaisir à le faire tous les deux, et puis la solution qui existe aujourd'hui, à mon sens, est infiniment meilleure que ce qui existait il y a 6 ans. C'est un peu la loi de Moore au niveau de la convivialité Linux, là, en tout cas de mon sens. Là.
Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes accroché finalement? Parce que vous dites il y a 6 ans, c'est vrai qu'il y a 6 ans, c'était pas vraiment convivial. Il y a peut-être des problèmes pour installer tout un tas de périphériques. Donc qu'est-ce qui a fait que vous êtes encore aujourd'hui fervente de Linux?
La curiosité, j'ai toujours été intéressée par l'informatique. J'ai déjà été gestionnaire d'un service informatique et le dépassement, là, j'aime ça. Ça me donne des défis, puis ça me permet de voir autre chose là, que Windows.
Et à cette époque-là, est-ce que vous avez utilisé différentes distributions ou est-ce que vous êtes resté tout le temps sur la même?
Après Sherbrooke, on a essayé du Linux. Je pense que, comme on disait, Mandriva. Ensuite, j'ai essayé Kubuntu. Et là, je suis à Ubuntu. Là.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester la nouvelle version?
À peine. Je l'ai installé tout juste cette semaine, donc je suis en train tranquillement de découvrir les nouvelles fonctionnalités, mais je peux pas dire que je l'ai testé parce que je trouve pas que j'ai passé suffisamment de temps sur la nouvelle version pour vraiment la tester. Mais ce que je peux voir jusqu'à maintenant, c'est que ça s'inscrit dans la continuation, donc je suis assuré d'être satisfait.
Est-ce que vous faites des mises à jour à chaque fois qu'il y a une nouvelle version? Vous attendez un petit peu? Comment ça se passe?
Je l'ai fait à chaque fois. Dès qu'il y a une nouvelle version qui est disponible dans mon gestionnaire de mise à jour, je la fais habituellement immédiatement. De toute façon, la structure de partition que j'utilise me permettrait de faire un rollback assez facilement si jamais il y avait quoi que ce soit. Puis pour être franc, j'ai une confiance beaucoup plus aveugle dans les produits Ubuntu que j'en ai dans n'importe quoi qui sort de Redmond.
Et est-ce que ce serait indiscret de savoir qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur comme application?
Qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de tout.
J'essaie. Vous allez sur Internet, puis vous utilisez...
Sur Internet, je fais des documents, je fais des... J'essaie de faire du dessin, là. J'essaie les fonctionnalités au fur et à mesure que j'ai un peu de disponibilité. Là. J'essaie d'appliquer à peu près toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir.
Est-ce que c'est facile avec vos amis de dire j'ai Linux par rapport à eux qu'auraient Windows?
Encore une fois, je dirais maintenant oui. Maintenant, c'est facile. Il y a justement, quand j'ai commencé, il y a 6 ans peut-être, j'avais l'impression d'être un insulaire seul sur mon île. Presque un évangéliste quand je parlais de Linux. Maintenant... ce que je sens, en tout cas, c'est que c'est peut-être que j'ai fini par tanner mes amis, puis ils sont un peu plus familiers avec la solution, mais j'ai vraiment l'impression que Linux commence à prendre une certaine place. Il commence à avoir une certaine connaissance, entre guillemets, mainstream de l'autre option, si on veut. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus intéressant de discuter de Linux maintenant.
On n'a plus vraiment honte d'être un utilisateur Linux.
Honte, pas tant que ça... À vrai dire, j'ai jamais eu honte. J'ai toujours aimé être un original, donc à ce titre-là. Mais non, on se sent plus tellement comme un original. On n'a plus nécessairement la même. Puis c'est agréable aussi d'être capable de discuter. Puis ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'avec l'utilisation de Linux, on finit par voir les avantages, les inconvénients. Puis c'est ce que j'aime de Linux, c'est que ça permet d'avoir une vision critique du système d'exploitation. De la même façon que grâce à Linux, je suis capable de maintenant regarder Windows et dire il y a des forces et il y a des faiblesses, de la même façon que je regarde mon poste Linux. Et juste pour ça, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir développé cet œil critique-là. Je pense que ça peut être bon pour tout le monde.
Tout à l'heure, vous disiez que hormis le Linux et la technologie, c'était important aussi, vous, que ça soit un logiciel libre.
C'est important et vous parliez tout à l'heure, moi je sais que je fais beaucoup la promotion de Linux, entre autres quand on rencontre des gens dans les pays en voie de développement ou des choses comme ça qui utilisent Windows mais des versions piratées, bien, on leur fait connaître, on essaie de leur faire connaître les avantages de l'utilisation de Linux et tout ça. Donc je pense que c'est... mais j'aime beaucoup l'aspect communautaire, si on peut dire aussi, de l'organisation. Donc j'ai découvert récemment Ubuntu Women et des choses comme ça, donc ça me... C'est intéressant. Ça nous donne toujours une perspective de plus en plus grande.
Est-ce que vous faites appel aux groupes locaux, par exemple, pour vous faire aider? Parce qu'il y a des groupes comme Linux, par exemple, ici à Québec. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller à des conférences ou d'avoir du support?
Pour les conférences, non. C'est la première fois que je viens. Mais je fais appel des fois au forum, là, soit le forum français, soit le forum québécois, pour avoir de l'aide, essayer de se faire dépanner ou donner des choses aussi.
Ben, écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour les auditeurs? Merci, puis à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Et oui, merci, à bientôt. C'était Edith et Jean lors de l'Ubuntu Party de chez nos chers amis québécois, donc à Québec, qui a eu lieu le 6 mai 2010. On poursuit cette balade de témoignages avec un autre témoignage donc de François de Zolnier.
Donc bonsoir, on est à la soirée d'Ubuntu donc pour le party 10.04. Donc je fais un petit peu le tour de la salle pour essayer de poser des questions à différentes personnes qui sont présentes. Donc là, j'ai ma première personne à qui je pose des questions. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de La Voix du Libre?
Oui, je m'appelle François Desornier. Je travaille pour une firme de consultants de Québec. Et puis, voilà, je suis consultant informatique. Je suis architecte, en fait.
Est-ce que c'est la première fois que tu viens à une soirée d'Ubuntu?
Non, c'est peut-être mon troisième lancement depuis que j'utilise Ubuntu d'ailleurs, donc depuis un an. Et puis je suis venu à quelques rendez-vous Linux aussi, comme celui qu'il y avait mardi passé. Et puis ben voilà, c'est à peu près ça.
Qu'est-ce qui t'a incité il y a un an à passer à Ubuntu?
Ben, mon ordinateur était quand même assez âgé. Et puis en fait, pour vous dire la vérité, il n'a jamais été rapide. Ça m'a toujours pris plusieurs minutes à loader mon ordinateur. Et puis, David Tremblay, qui m'avait parlé de ça, me disait qu'il trouvait ça tout à fait anormal, que ça devait prendre quelques secondes. Et puis, ben, je me suis dit, je vais faire le saut. J'ai vidé mon ordinateur de micro... de logiciel qui était là, du Monopole. Et puis, j'ai mis Ubuntu. Et puis, j'ai été saisi de constater qu'effectivement, ça prenait quelques 40 secondes environ à charger mon ordinateur, ce qui est fantastique. Maintenant, si je me fais cuire de quoi au micro-ondes, j'ai le temps d'aller faire un peu d'Internet et de revenir, même si mon ordinateur est fermé au moment où je me décide, alors qu'avant, ça aurait pris minimum 5 minutes. Mais c'est un vieil ordinateur quand même. Ben voilà.
Est-ce que avant de choisir Ubuntu, est-ce que tu connaissais déjà d'autres distributions?
En fait, on m'avait parlé une fois de Mapis. Il y a peut-être 3-4 ans, mais j'avais comme pas accroché sur le fait que ça existait. J'avais sourcillé avec un peu d'intérêt, mais sans plus.
Qu'est-ce que tu aimes dans Ubuntu par rapport à ton utilisation de Windows? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu apprécies?
Curieusement, je dirais le modèle économique de la chose. J'aime penser que le monde puisse fonctionner sur un modèle différent. Puis, dans les distributions libres, eh bien, c'est un modèle de bénévolat. C'est un modèle de communautaire, c'est un modèle du don de soi, c'est un modèle où le phénomène de copyright n'existe pas. C'est plutôt le phénomène je crois que c'est les GPL, les General Public License, que je nomme moi souvent copyleft, peut-être à tort, je ne sais pas, mais où si moi je décide de copier Ubuntu et puis de l'améliorer, je peux. Et moi, je trouve ça génial parce que je trouve que c'est un incitatif à améliorer constamment le produit. Et puis, tandis que dans les logiciels propriétaires, ben, y a que les gens qui possèdent l'entreprise qui peuvent le faire. Puis nous, ben, on est comme à la merci de ça.
Est-ce que tu as déjà conseillé des amis ou des contacts autour de toi de passer à Linux?
Je dirais que j'ai fait environ 6 conversions, à peu près, oui. Je vais tranquillement, j'essaye pas d'imposer ça, j'en parle très très calmement. Des fois, le défaut des gens sur les logiciels libres, c'est souvent d'en parler avec un petit peu trop de passion. Moi, je dis souvent que trop, c'est comme pas assez. Il y a un dosage à faire, mais c'est ça, en tout cas.
Est-ce que les utilisateurs sont satisfaits, en général?
En général, oui. En fait, je dirais que normalement, ils se plaignent la première journée, puis ils me demandent de leur enlever ça. Et puis le lendemain, il me rappelle pour me dire « Non, non, viens surtout pas enlever ça. » Jusqu'à date, c'est l'expérience que j'ai eue.
Qu'est-ce que tu fais avec ton ordinateur? Est-ce que tu fais des choses particulières ou tu lis des courriels, tu vas sur Internet?
Je fais beaucoup d'Internet au sens de la navigation. Je fais aussi des rédactions. Je fais mon budget, des choses comme ça. Mais je développe aussi, c'est-à-dire je maintiens un site Internet là, que j'avais développé avant là, sur l'ancien système d'opération.
Là, on est pour la sortie de la nouvelle version. Est-ce que tu as déjà regardé un petit peu ce qu'il y a dans la nouvelle version?
En fait, pour dire la vérité, pas du tout. Sinon que j'ai regardé sur YouTube un petit peu, Non, pour dire la vérité, pas trop.
Est-ce que tu vas faire le saut bientôt?
Je vais probablement l'installer. J'ai le CD en main. Je vais probablement l'installer dans la semaine. Oui.
Ben écoute, je te remercie d'avoir participé à cette entrevue. Donc, je te souhaite bonne chance pour ta migration.
Merci beaucoup.
Merci François de Launier et merci à nos amis de La Voix du Libre au Québec. Des entrevues lors de cette Ubuntu Party du 6 mai 2010. On termine avec la dernière entrevue avec Marie-Claude et Maurice.
Donc toujours à l'occasion du party d'Ubuntu sur la nouvelle version 10.04, j'ai vu autour d'une table deux personnes qui étaient en train d'installer, j'imagine, la nouvelle version. Donc je me suis précipité vers elles. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de La Voix du Libre?
Bonjour, Marie-Claude Bélanger. Je travaille chez Taleo en tant qu'analyste en assurance qualité.
Bonjour, moi c'est Maurice Salazar. J'ai fini un MBA en électronique. Je suis en train de chercher d'emploi.
Est-ce que ça fait longtemps que vous utilisez Linux?
Ça fait 2 ans. En tout cas, personnellement, là, je l'ai installé il y a à peu près 2 ans.
Oui, à peu près la même époque. Il y a 2 ans, j'avais beaucoup de problèmes avec Windows, alors j'ai cherché une autre alternative et j'ai tombé sur Ubuntu.
Est-ce que ça a toujours été Ubuntu dès le départ?
Oui, mais ça a été comme un hasard parce qu'on a essayé OpenSUSE, on a essayé Mandriva aussi sur mon poste en particulier. Il y a eu des circonstances techniques qui ont fait en sorte que c'est Ubuntu qu'on a fini par installer.
Est-ce que ce serait indiscret de dire qu'est-ce que vous utilisez comme application sous Ubuntu?
Ah, pas de problème. Personnellement, OpenStreetMap, je suis très adepte là, pour inclure du contenu que pour aller chercher de l'information. Toute la suite, bien sûr, OpenOffice. Je m'en sers régulièrement pour la plupart de mes travaux. Donc, c'est pas mal ça.
Moi, j'utilise OpenOffice et j'utilise quelques logiciels pour programmation aussi. MonoDevelop, c'est un logiciel pour développer dans le langage C# et d'autres logiciels d'application spécifiques, que je me rappelle le nom, oui, mais ce sont beaucoup de petites applications que ça aide beaucoup, oui.
Qu'est-ce qui vous plaît dans Linux? Est-ce que c'est la philosophie ou le fait que vous n'avez plus besoin, par exemple, de pirater les logiciels?
Ce qui m'a attiré en premier, je dirais, c'est plus sans doute la communauté de pratique, comme on dit, le fait que plusieurs personnes contribuent de manière volontaire à monter un produit qui va servir à tout le monde. Je fais un peu de recherche sauvetage et puis cette optique-là est très importante pour nous de pouvoir partager de l'information de manière complètement libre, de pouvoir aller chercher de l'information et puis d'intégrer des contenus rapidement pour établir une collaboration entre des personnes qui ont les mêmes intérêts, là. Moi, c'est ce qui m'a le plus attiré dans l'approche Linux puis dans le logiciel libre en général, ouais.
Est-ce que vous participez un petit peu au groupe qui est à Québec? Est-ce que vous allez à des conférences? Est-ce que vous allez obtenir du support?
Oui, ben, j'aimerais pouvoir participer plus, mais quand il y a des meet-up, quand il y a bien sûr des soirées Ubuntu comme celle-là, on essaie de se déplacer le plus possible. C'est des événements qu'on aime pas les manquer, en tout cas.
Est-ce que vous avez l'occasion de regarder les nouvelles fonctionnalités de la version 10.04?
Non, pas vraiment. On arrive vraiment pour connaître les nouvelles approches. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, surtout dans la question des vidéos, oui, multimédia, qui c'est vraiment intéressant, mais non, on n'a pas vraiment expérimenté avant que ça, non.
Ça, on vient de l'installer tout juste, là.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous attendez longtemps avant qu'il y ait une nouvelle version qui sorte?
Ah, dès qu'ils sortent, on essaie de les installer le plus vite possible, parce que il y a des améliorations autant dans la mise à jour graphique, là, je dirais, dans la présentation visuelle du produit, que dans les fonctionnalités aussi de certaines applications. Ça vaut vraiment la peine de se tenir à jour.
Est-ce qu'il y a des problèmes que vous rencontrez des fois avec l'environnement Linux, par exemple sur Internet? Est-ce que vous pouvez lire des vidéos? Est-ce que des fois, est-ce que vous branchez des périphériques particuliers dessus? Est-ce que ça fonctionne?
En réalité, au début, quand on installe la version Linux, il y a le problème, c'est que il y a beaucoup de logiciels qui sont propriétaires et on est obligé à réinstaller quelques applications qui vont lire ces logiciels. Par exemple, les DVD, ce n'est pas facile de lire dans une version Linux courante. On doit installer une application, comme une page pour résoudre ce problème et après ça marche très bien.
Puis un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est comme les Jeux olympiques de Vancouver, lorsqu'ils ont essayé de faire de la diffusion par Internet, ça prenait une espèce de patch Windows ou d'application propre à Windows pour visualiser les Jeux olympiques. Puis nous, quand on était sur une plateforme purement Linux, c'était impossible de le lire. Donc, il y a encore des freins, des barrages qui... moi, j'ai trouvé ça carrément inacceptable parce que peu importe la provenance du système d'exploitation, c'est un événement public, c'est un événement de grande envergure. Ça devrait être accessible à tout le monde. Mais je pense que c'est ça, c'est par des événements comme ceux-là qu'on pousse puis qu'on exige finalement d'avoir le même niveau de service que n'importe quel autre système d'exploitation peut obtenir. Puis, mais c'est une mentalité. C'est des choses qui sont qui prennent du temps à changer, mais à la longue, on va avoir plus d'adeptes, puis ça va changer.
Malgré ça, est-ce que vous conseillez quand même à des amis autour de vous d'installer Linux? Est-ce que vous en parlez facilement?
Ah oui. Comme, c'est sûr qu'eux aiment bien être familiers avec... Ils sont déjà très familiers avec toutes les applications Windows, l'environnement, tout ça. Mais moi, j'aurais... J'hésiterais même pas deux secondes. Là, à partir du moment où, je sais pas, une personne de ma parenté me demande « Ah, oh, j'aimerais bien ça, dorénavant, essayer Linux. » Moi, je leur offrirais toutes les possibilités de l'installer. Je leur offrirais le support technique sans aucune hésitation parce que je sais maintenant, à force de travailler avec, que toutes les applications qu'ils vont trouver là-dedans vont subvenir à leurs besoins. Sans aucune hésitation, je le conseille. Ah oui.
Bah, écoutez, merci d'avoir donné de votre temps. Je vais vous laisser finir l'installation et finir de manger aussi. Merci.
Merci à vous et je vous recommande fortement d'utiliser Linux, Ubuntu, en n'importe quelle version, parce que la performance, la sécurité, les programmes sont très bien faits. Oui, l'installation, il n'y a pas vraiment aucun problème dans cet environnement, contrairement à Windows ou d'autres applications qui sont vraiment payantes. Et, tu arrives avec un produit qui ça ne couvre pas ton besoin. Oui. Vraiment, je recommande Ubuntu.
Merci.
On l'a compris.
Maurice et
Marie-Claude sont emballés, et pas par le paquet cadeau, mais par la distribution Ubuntu.
10.04, donc à cette Ubuntu partée à Québec. Des entrevues qui étaient réalisé, capté par nos amis, nos confrères de La Voix du Libre sur les ondes de CKIA à Québec 88.3. Toujours sur Divergence Numérique.
Voilà, il nous reste assez peu de temps. Nous avons encore un petit bout, je pense, de...
On va faire une petite pause musicale pour respirer un petit peu.
De pause musicale, voilà.
Voilà, avec toujours donc cette charmante... charmante brésilienne Andrea Dacal avec un extrait de son dernier album Affirmativa. N'hésitez pas à le télécharger sur fraîche-poulpe.net, donc la release numéro 45. Une très bonne archive, de très bons sons. Vous retrouverez aussi un dossier de presse, des photos, les paroles de ses chansons. Et on va écouter, si ça suit en régie, Tudo Eti.
Bien sûr,
Tudo Eti, ou Eti, je ne sais pas. En tout cas, sous licence Creative Commons by NCSA 2.0.
Minuto de conexão, então que me encontrassem. Naquele minuto ela entra, traz consigo. Senta, olha pra trás, na sequência um sorriso. Correndo risco, fictício de maneira absurda. Transmissão, frequência baixa, nunca se escuta. Anos e anos de lutas, viagens absurdas. Poucas glórias, vitórias curtas, Marias lenta. Joana que não cumprimenta, solidão que atenta. E todo veneno não experimenta. Seguindo o caminho que o ser humano impôs. Mas sempre pensando como alienígena me propôs. Deixa pra depois, aquele nosso plano. Entendi, desculpa, fica ligando, foi engano. Valor não se tem, atitudes que se tem. Não vale nada pra esse alguém, nem... Mas eu louco disposto, concentrado em meu posto. Onde o estoque de rimas é bem maior que o outro. Tanto de besteira quanto de coisas que afeta. Traz coisas que você adora e outras que tu detesta. Mas o meu reinado alienígena não vai acabar. Eles me disseram pra continuar e observam de lá.
Me apresento pra você, louco do ET. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra tentar humanos eles usam minha voz. Me apresento pra você, louco tudo ET. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alertar humanos, eles usam minha voz.
É isso, e sigo insistindo, percebendo e desbravando saídas, sem deixar rastro ou migalhas no caminho. Verdade, consequência ou destino. Quem além de nós responde por nós e tem real poder pra temer. Eu e eu. como Noé, acredita até o fim nessa visão. Com aliados guerreiros rumo ao Monte Sião, universo e união.
Pra você, louco tudo é ter. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alertar humanos, eles usam minha voz. Me apresento pra você, louco tudo é ter. Vai saber se não entendeu, medo te faz correr. Eles são a inteligência sobre nós. E pra alertar humanos, eles usam minha voz.
Eles me falaram pra eu não me entregar e nunca deixar o maldito humano minha mente zanar. 51 tem muito mais que um. Ali nossos irmãos virou experiência na mão dos corrios. O programa ET começa agora. Nossos irmãos não estão parados, estão se armando lá fora. E o prejuízo é claro que pode ser grande, pois o humano machuca seu planeta e os distantes. Mas ele não aceita, que o humano não respeita. E nossa raça humana não vai longe logo ela deita. Me comunico com a princesa Tano e vamos tomar um café. Vem de start, mais uma que deu olé. É, mas não precisava tratar desse jeito. Esquece que a gente não nasce nada perfeito, mas arrisca o peito nessa nova guerra. Guerra idiota, ferve e congela. Traz mais espanto e mortos que o Titanic. Como seria o mundo se as flores não caíssem? Cê não enxerga, mas eles estão lá, naquele lugar que você não consegue olhar.
La Rioja Andrea Dacal qui bien signe ces différentes pauses musicales qui ont émaillé cette divergence numérique. L'album s'appelle Affirmative, c'est son second album, procurez-vous-le, téléchargez-le sur dogmazic.net ou fresh-poulpe.net.
Vous pouvez refaire le CD, imprimer les couvertures.
Et vous pouvez même, j'imagine, l'acheter auprès directement de l'interprète, l'auteur interprète
aussi, ou à travers Pragmazic également, voilà, en sachant que plus de 60% seront reversés à l'auteur.
Et non pas 0,16%, des trucs comme ça.
10 pour les meilleurs.
10% pour les meilleurs. Un petit coup d'agenda du livre, parce que là, on est vraiment charrette.
Avec en fond donc notre magnifique générique d'ouverture et de fermeture,
signé
monsieur
Docteur Paradox,
qui est une femme d'ailleurs. Oui. Et oui, avec l'agenda du livre, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que libriste, par exemple, à Mourbar ça, c'est...
Je crois qu'on va laisser tomber Mourbar. On peut simplement dire que ce mardi 27 avril, non, c'est mort.
Ah bah voilà, une install party au Lug 68, donc à Mourbar, donc un groupe d'utilisateurs de logiciels libres du Haut-Rhin, vous l'aurez compris, organise donc toutes les 3 semaines une réunion informatisée. Au domaine Langemart à Mourbar, près de Guebwiller. Coucou à nos chers amis de l'Alsace. Quoi d'autre N'oublions pas qu'à Bruxelles, l'open source sans risque avec l'OSSA. En tout cas, agendadulibre.org et puis agendadulibre.qc.ca pour nos amis québécois. La semaine prochaine, c'est donc la semaine des logiciels libres à Montréal avec Mondev. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Même heure, même punition. On remercie Eliette Kaimim et notre stagiaire dont j'ignore le prénom, mais que l'on remercie tout de même pour la réalisation de cette émission. Pascal, on vous souhaite une bonne soirée à l'écoute des programmes du 93.9.
Et puis, soyez libres.
Soyez libres.
Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Uh-oh.